Alors ensemble, notre Église, nous étudions une lettre que Paul, c'était un apôtre, un envoyé de Jésus, une lettre que Paul a envoyée à une Église à Corinthe, une Église qu'il lui-même avait commencée avant. Et Corinthe était une ville importante de l'époque en Grèce. Et peut-être plus encore que d'autres, cette ville était connue parce qu'elle avait des valeurs et des manières et une culture qui étaient très opposées aux valeurs chrétiennes et aux messages chrétiens. Parce que, par exemple, Jésus, en tant que chrétien, Jésus nous pousse à l'humilité, mais les Corinthiens célébraient l'orgueil, la fierté. En tant que chrétien, Jésus nous pousse à la sainteté et la pureté, mais Corinthe célébrait la débauche et l'immoralité. En tant que chrétien, Jésus célèbre l'unité et l'amour, comme nous venons de chanter. Mais à Corinthe, on célébrait la concurrence et la rivalité. Et donc, vous voyez, c'était un grand défi pour ces chrétiens corinthiens de vivre leur foi dans une culture qui était vraiment à l'opposé de leurs valeurs. Et à cause de cela, il y avait même pas mal de problèmes dans cette église à Corinthe, parce que souvent, cette église suivait plutôt les valeurs et la culture corinthienne que la culture chrétienne. Et ça cause des problèmes. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que quelque part, nous nous retrouvons aussi dans une situation similaire. Notre culture autour de nous est de moins en moins une culture chrétienne, et nous voici, en tant que chrétiens, qui voulons vivre notre foi, nos valeurs. Alors, cette épître peut nous encourager. Alors ce matin, nous allons lire le chapitre 8 et nous allons découvrir un autre problème dans cette église. Et quand je vais lire le chapitre 8, vous allez peut-être penser, oula, tout ça c'est très étrange, très bizarre, ça ne nous concerne pas du tout, il n'y a aucun rapport avec ce que je vis avec notre époque. Et c'est vrai, même si ce n'est pas quelque chose que nous vivons directement, comme vous allez voir, ça peut nous donner de grands principes qui vont nous aider à vivre notre foi aussi dans notre culture autour de nous. Alors prenons ensemble 1 Corinthiens 8, et nous allons lire 8, et puis nous allons aussi lire quelques versets à la fin du chapitre 10. Alors pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne un pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Et plus tard, chapitre 10, verset 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre, tout ce qu'elle renferme, est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté sera-t-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous bouviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors, une question qui revient souvent, peut-être chez nos amis non-croyants, qu'ils aiment nous poser, souvent par curiosité sincère, ils veulent savoir qu'est-ce que le chrétien a le droit de faire ou pas le droit de faire. Qu'est-ce qui est permis dans votre religion? Qu'est-ce qui est interdit? Alors souvent, on ne parle pas des choses dont tout le monde est d'accord, c'est-à-dire pas tuer, pas voler, pas tricher. Je connais peu de religions, de croyances qui disent tuer, voler, c'est bien. Non, tout le monde, même les croyants et non-croyants, sont d'accord sur beaucoup de ces choses morales. Mais d'autres questions reviennent souvent. Qu'est-ce que vous avez le droit de manger ou pas manger? Qu'est-ce que vous avez le droit de porter comme habillement ou pas? Qu'est-ce que vous avez le droit de faire vendredi soir en ville, lors d'une fête de la musique, par exemple? Jusqu'à quelle heure? Tout ça. Alors, souvent, on veut une réponse facile à ces questions. Oui, non, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire cela. Et c'est vrai que la plupart des religions fonctionnent avec des règles plus ou moins strictes, des règles alimentaires, des règles vestimentaires, des règles de comportement. Mais, comme nous disons souvent, l'Évangile est très différent des religions. L'Évangile est très différent des religions et une des différences, c'est que l'Évangile résiste à des règles simplistes qui ne traitent pas le fond, qui ne transforment pas le cœur. Et même à multiplier les règles, souvent on pousse ça à l'abus et à l'hypocrisie. Donc l'Évangile résiste à ces choses. Et ça va être le cas ici pour les Corinthiens aussi. Ils ont une question qui concerne la viande sacrifiée aux idoles. Mais au lieu de donner un simple oui ou non, oui tu peux le faire, non tu ne peux pas le faire, Paul, il va écrire 3 chapitres, 8, 9, 10, traite l'ensemble de toute cette question. Il va écrire 3 chapitres pour aider les Corinthiens à réfléchir et à vivre selon l'Évangile. Alors j'aimerais maintenant résumer la situation et le contexte historique pour que vous compreniez mieux cette viande sacrifiée aux idoles. À Corinthe, vous savez, il y avait beaucoup de temples païens, des temples partout dans la ville, dédiés aux diverses divinités païennes. Il y avait autant de temples qu'il y a des cafés et de bistrots sur la place Capitole à Toulouse. C'était partout. Et dans ces temples, il y avait souvent des repas, des banquets publics, parce que toute occasion est bonne pour faire un banquet en honneur des dieux. Et en fait, lors de ces banquets, le repas était le culte. Le culte était le repas. Et même pour nous chrétiens, ce n'est pas si étrange que ça, parce que dans notre culte, il y a aussi un repas symbolique. Et ici, c'était moins symbolique. Mais partout, souvent, les repas et le culte sont alliés. Mais dans ces temples, le repas, c'était le culte. Le culte, c'était le repas. Et on apportait de la nourriture, un animal par exemple, qu'on allait sacrifier. Et cet animal ou cette nourriture, on l'offrait au dieu. Mais bien sûr, ce n'est pas le dieu qui le mangeait. C'était des dieux spirituels. Donc, ce n'est pas le dieu qui mangeait le sacrifice. C'était mangé par les participants. C'était ça le culte. Et ils mangeaient ensemble dans ces temples païens. Et ce qui restait de cette nourriture pouvait être ensuite vendu au marché. Alors, ces banquets, ces fêtes étaient archi présents dans la vie des Corinthiens. Et non seulement c'était le culte, mais c'était aussi le lieu de vie, c'était les lieux de partage, c'était les réseaux sociaux de l'époque, c'était en quelque sorte les restaurants de l'époque, c'était là où les gens vivaient socialement ensemble. Alors, je me dis, essayons de ramener ça en France. Pour l'instant, c'est pas encore notre époque. Je prends un exemple très ancien. Astérix et Obélix. Vous savez, ça termine toujours par un banquet dans ces histoires. Et ces banquets de célébration, bien sûr, ils célébraient souvent les retrouvailles, ils célébraient la victoire, parce que l'histoire termine toujours bien chez Astérix et Obélix. Et ils sont très contents d'être nouveau ensemble dans le village. Mais ce sont aussi des repas en honneur des dieux, vous le savez. Ils disent toujours par Toutatis, par Bélénos, tout ça. Et ici, Obélix, un sanglier par Toutatis. Donc, c'est des dieux celtes, des dieux païens de l'époque. Maintenant, imaginons que Astérix se convertit à Jésus. Astérix devient chrétien. A-t-il le droit de participer à ces repas, à ces banquets? Pas évident, hein? Qu'est-ce qu'on va lui conseiller? Est-ce que s'il ne participe pas, ce serait dommage, en quelque sorte, le public ne va pas être content. Et qu'est-ce qu'il fait s'il ne participe pas? Il reste tout seul dans sa hutte à bouder. Les gens ne vont pas comprendre parfois sa démarche. Il veut être avec son ami Obélix, il veut l'évangéliser. Et est-ce qu'il a le droit de manger du sanglier maintenant, si, puisque un sanglier partout à Tis, comment il gère ça? Et s'il veut évangéliser, et si son ami Obélix se convertit aussi, parce qu'il a un bon témoignage, comment il va aider Obélix, qui est peut-être un peu plus simple d'esprit, à bien prier et arrêter de dire partout à Tis, partout? C'est pas évident, vous voyez. Alors certes, l'exemple est comique, mais n'empêche que les chrétiens de toute époque doivent faire face à des questions de comportement qui sont pas faciles, notamment dans notre rapport avec la culture non chrétienne, le monde autour de nous. J'essaie de trouver quelques exemples, mais c'est difficile à transposer exactement ce que vivent les Corinthiens chez nous. Mais certaines choses dans notre culture nous font peut-être des cas de conscience aussi. En tant que chrétien, par exemple, peut-on assister à un mariage d'amis, d'amis homosexuels, par exemple? Est-ce qu'on veut être amis, mais est-ce qu'on veut célébrer cela? Ou un maire de village, est-ce qu'il peut célébrer un mariage homosexuel? Je pense que dans des cas éthiques, dans le domaine médical, arrive de plus en plus souvent. Récemment, ils ont demandé au Vatican, normalement, des vaccins qui sont développés à partir des tissus de bébés avortés. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Peut-être plus souvent dans notre quotidien, c'est des pratiques commerciales ou professionnelles où l'idolâtrie de l'argent pousse parfois à des pratiques qui sont limites. Et ça, peut-être nous sommes tous concernés. Aussi, l'usage de la technologie ou le contenu de nos écrans, ce sont des choses pas toujours facile à gérer. Est-ce qu'en tant que chrétien, j'ai droit ou pas droit de faire ça? Et comment je décide? Et c'est ça la question. Est-ce que tout est permis quand il n'y a pas un commandement clair, précis dans la Bible? Bien sûr, il y a des commandements clairs que nous voulons obéir, mais d'autres domaines, il n'y a pas de commandement clair et précis. Dans ce cas-là, sommes-nous libres de faire ce qu'on veut? Est-ce que tout est permis? Et c'est ce que nous allons découvrir ce matin. Paul donne deux grands principes pour nous aider. Est-ce que tout est permis? Oui, si c'est à la gloire de Dieu et que c'est non idolâtre. Et si c'est pour le bien des autres et non juste mes propres intérêts. Et ces deux principes vont nous aider à trancher sur ces questions où des fois on ne sait pas trop. Alors voyons ces deux choses. Tout d'abord, le principe général dans ces chapitres. Oui, c'est permis si c'est pour la gloire de Dieu et non idolâtre. C'est comme ça que Paul termine toute cette partie. Faites tout pour la gloire de Dieu. Mangez, boire ou toute autre chose, faites pour la gloire de Dieu. Parce que le souci majeur de Paul ici dans ces chapitres 8 à 10, c'est d'encourager les Corinthiens à fuir l'idolâtrie. Ça, c'est sa préoccupation principale. Il ne veut pas que les Corinthiens retombent dans l'idolâtrie archi-présente dans leur ville. Il vient de dire, chapitre 6, les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est la définition même de ce que c'est de devenir chrétien, c'est qu'on ne cherche pas, on ne cherche plus le salut dans les idoles. Les idoles sont des choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie. On ne cherche plus le salut dans ces idoles, mais on le cherche en Jésus, et Jésus seul, comme seul Dieu, seul sauveur. Et à partir de là, c'est vrai que Dieu, par amour, il est jaloux de notre adoration. Il est jaloux de notre amour et il ne veut pas qu'on le partage avec d'autres choses qui seraient une idolâtrie. Et Paul est en train de dire à ses Corinthiens, tout au long de ce chapitre, écoutez, l'amour de Dieu pour vous et votre amour pour Dieu, pour lui, est incompatible avec le fait de manger dans ces temples païens. C'est trop idolâtre. Mais vous comprenez que la pression sociale était très forte sur les Corinthiens de continuer à participer dans ces repas et dans ces festins idolâtres. Parce que de ne pas participer à ces cultes, à ces repas, souvent on était invité par ses amis, invité par son patron, invité par sa famille. Alors si on n'allait pas à ces repas, socialement c'était la chute libre, c'était le suicide. Alors, pour beaucoup, la tentation était trop forte, le sacrifice était trop grand pour ne pas aller dans ces repas et de manger ces choses sacrifiées aux idoles. Et il semble que certaines des Corinthiens avaient trouvé l'astuce pour ne pas, pour pouvoir participer à ces repas. Et là, on entre dans les détails du chapitre 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. L'astuce des Corinthiens pour manger à ces repas, c'est de dire nous avons la connaissance. Nous avons la connaissance théologique, la connaissance doctrinale que les idoles n'existent pas. C'était un mot préféré des Corinthiens d'ailleurs, la connaissance. Ils étaient très très fiers de leur connaissance, très très fiers de leur connaissance théologique, connaissance doctrinale. Et le verset revient dans quasiment tous les versets du chapitre 8, 1, 2, verset 1, verset 2, verset 3, verset 7, verset 10, verset 11. Paul, visiblement, il veut les interpeller sur cette connaissance qu'ils ont. Les Corinthiens, ils avaient une bonne connaissance de Dieu. Ils avaient une bonne connaissance du monothéisme. Ils pourraient vous faire un exposé excellent sur le monothéisme. Et quelque part, leur connaissance, par cette connaissance, ils disent, oui, tout le monde sait que des idoles n'existent pas. C'est tout ce que nous avons chanté ce matin, d'ailleurs, oui. Un seul Dieu, créateur, tout le reste est création. Les idoles, ça n'existe pas, un seul Dieu. Et donc, ces Corinthiens disent, je peux aller dans un temple païen, d'Apollon ou d'Aphrodite, et faire la fête avec les autres, parce que moi, j'ai la connaissance qu'Apollon, ça n'existe pas. Aphrodite, ça n'existe pas. Ce sont des mythes, c'est de la mythologie grecque. Ça n'existe pas. Donc, j'y vais dans ces temples païens et moi, j'ai la connaissance que ça n'existe pas. Mais Paul voit deux problèmes avec cette connaissance. Elle n'est pas à la gloire de Dieu et elle n'échappe pas à l'idolâtrie. Tout d'abord, Paul discerne une attitude prétentieuse, orgueilleuse, trop sûre de soi, qui justement n'est pas à la gloire de Dieu. Il dit, verset 1, la connaissance enfle. Mais l'amour est difficile. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là, est connu de lui. Vous voyez, Paul, il voit chez ses Corinthiens, ils sont très fiers de leur connaissance, mais ça les rend orgueilleux, qui est déjà un problème. Normalement, plus on étudie la Bible, plus on étudie les choses de Dieu, plus ça nous rend humbles. Et Paul rappelle en versets 2 et 3 que l'important, c'est de pas justement, c'est pas connaître plein de choses, mais déjà d'être connu de Dieu. Et c'est ça qui déjà nous donne une humilité dans notre démarche, dans notre conception de Dieu et de la Bible. Le plus important, c'est pas tout ce que moi je connais sur lui, mais le plus important encore, c'est que lui, il me connaît, lui, il m'aime. Et je mets ma fierté et ma gloire dans ça. Et puis aussi, un signe de maturité chrétienne, c'est de constater aussi tout ce qui nous reste à apprendre. Il dit, verset 2, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Si à la fin d'une formation dans l'Église ou à la fin d'un institut biblique, on sort de la formation, on dit, maintenant je sais tout, je connais tout sur la Bible, c'est bon. C'est une mauvaise attitude. Mais si à la fin d'une formation, je dis, oula, J'ai découvert tout ce qui me reste à apprendre. Et j'ai découvert que Dieu reste encore grand. Et j'ai découvert que mon cœur reste encore fragile. Et tout ça, je veux avancer. Ça, c'est signe de maturité chrétienne. Ce que les Corinthiens n'avaient pas trop. Donc, le premier problème avec cette connaissance, c'est qu'elle était orgueilleuse et prétentieuse. Et ne les gardait pas de chute et de piège. Et le deuxième problème avec leur connaissance, qui n'était pas la gloire de Dieu, c'est que cette connaissance était incomplète et ne prenait pas en compte une autre réalité. Paul va dire, oui, on est d'accord, verset 6, « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses et par qui nous sommes. » Paul dit, oui, votre connaissance est juste. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, il n'y a qu'un seul Seigneur. Oui, les idoles n'existent pas. Mais il dit, il y a une autre facette, il y a une autre dimension. Et en verset 7, il dit, cette connaissance n'est pas chez tous. Et encore, même en verset 5, il dit, il existe réellement des dieux dans ce monde. Et donc ça, il faut équilibrer ces connaissances. Effectivement, il y a un seul Dieu, les idoles n'existent pas. Mais il y a quand même une activité spirituelle dans ce monde, et Paul plus tard va dire, il y a même animé par une activité de démons, qui rendent qui donne une réalité à l'idolâtrie et à des idoles qu'on ne peut pas négliger. Par exemple, vous prenez un morceau de pierre, vous pouvez le sculpter dans une décoration de jardin, sympa, ou ce même morceau de pierre, vous pouvez le sculpter en un petit statue de Bouddha. Dans un monde monothéiste, on est d'accord, ça reste un bout de pierre. Ça ne change pas. Tout pareil, un hamburger préparé dans un temple païen et un hamburger préparé chez vous, c'est pareil. C'est de la viande bovine d'une vache que Dieu a créée et le goût est bon. Et voilà, ça, vous pouvez le manger, ça sera le même effet dans votre ventre. Et voilà. Mais Paul rappelle aux Corinthiens, même si vous avez cette connaissance-là, n'oubliez pas qu'il y a réellement des dieux, il y a réellement des réalités spirituelles. En tout cas, il y a une manière d'envisager la chose chez certaines personnes qui est aussi réelle. Et cette manière, suite à toute une vie pour des habitudes idolâtres, cette manière est là, il faut le prendre en compte. Donc, par exemple, le Bouddha dans le salon n'est peut-être pas une bonne idée, surtout si on est missionnaire en Asie, et on veut témoigner de Jésus-Christ. Qu'est-ce que un bouddhiste va... Comment il va voir ce statut? Vous voyez? Et ce principe peut nous aider, en tant que chrétiens, dans nos choix. Les chrétiens de toute époque vont devoir discerner quelles sont les pratiques qui, oui, prises toutes seules, sont peut-être neutres. Si vous mangez, vous n'avez rien de plus. Si vous ne mangez pas, ça ne change rien. Les pratiques qui sont prises toutes seules sont neutres, mais qui ont des associations fortes dans la pensée des gens et qui rappellent un culte païen, un culte autre que le culte que nous voulons vivre en tant que chrétiens. Et ça, ce n'est pas toujours évident à discerner, mais quand l'idolâtrie vient sur le tapis, là, il faut apprendre à dire non. Donc, je sais... Plusieurs frères, même parmi nous, même parmi vous, m'ont déjà témoigné en disant, voilà, j'étais dans tel poste, tel travail, mais à un moment, je ne pouvais plus continuer. Les pratiques commerciales, cette idolâtrie de l'argent, me poussaient à des décisions qui n'étaient pas saines, qui m'obligeaient à compromettre ma foi. Et donc, j'ai dû dire non. Vous voyez, l'argent n'est pas mauvais en soi, mais quand l'idolâtrie de l'argent est devenue trop forte et qui pousse à des pratiques malsaines qui peuvent détruire notre vie, je dis non. Ou par exemple, vous avez un groupe d'amis, vous entendez bien, mais à un moment, peut-être vous devez prendre des distances dans ce groupe d'amis ou telle relation, parce que vous voyez bien que les activités et les endroits que vous fréquentez le vendredi soir, le samedi soir ou d'autres moments poussent trop facilement à des activités que vous savez être païennes et qui sont connues, ont une connotation fortement païenne encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, vous discernez, quand vous discernez un culte autre que celui de Dieu, que Dieu pourrait être jaloux, alors là, vous dites, non, ça, c'est pas à la gloire de Dieu. Je peux pas participer. Donc, premier principe, tout est permis, oui, si c'est à la gloire de Dieu et non idolâtre. Et le deuxième principe à mettre ensemble, c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est les deux ensemble, c'est, oui, je peux, si c'est pour le bien et l'édification des autres. Si je pense à mon voisin chrétien, et aussi mon voisin non chrétien. Et c'est ce cas ici qui va aussi être le défi. Comment faire du bien à mes frères et sœurs? Comment les aider à grandir dans la foi? Comment aussi toucher d'autres autour de moi pour l'évangile? En tout cas, voici le principe. Est-ce que c'est permis? Oui, si c'est pour le bien des autres, si c'est utile, si c'est édifiant. Et ça aussi, c'est un principe majeur dans ces textes. On le retrouve déjà dans le verset 8:1. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ça va être un peu ça, la phrase clé de Paul aussi. Il faut une démarche d'amour envers les autres, et c'est ça qui va être important. Et il termine en 10, verset 24, avec cette même idée que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Donc, vous voyez, le principe de l'amour est une solution majeure pour tous les problèmes à Corinthe. Plus tard, Paul va dédier tout un chapitre sur l'amour, chapitre 13, pour aider les Corinthiens. Il dit, voilà, vous voulez savoir comment vivre ensemble, comment vivre une vie d'église, c'est l'amour, c'est par amour. Et pour revenir à cette viande sacrifiée aux idoles, Paul dit aux Corinthiens, quelque part, vous posez la mauvaise question. Vous essayez de dire, mais est-ce j'ai pas le droit de manger ces viandes sacrifiées aux idoles? Parce que moi, j'ai la connaissance que les idoles n'existent pas. J'ai pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit? Dis ça, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce qui est utile et édifiant pour les autres dans l'Église et pour les autres autour de vous? Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est édifiant, qu'est-ce qui est aimant pour eux et pour leur foi? On va prendre le cas d'un jeune Hercule. On va l'appeler Hercule, c'est un jeune grec qui habite à Corinth. Il s'appelle Hercule. Toute sa vie, il a vécu dans ses cultes païens. Et bien sûr, donc, il a des habitudes, il a des souvenirs, il a un passé lourd dans le paganisme de l'époque, tellement tout le monde est baigné dedans. Et puis Hercule, on lui témoigne de l'Évangile, on lui parle de Jésus, et il comprend que oui, le salut, il n'y a que Jésus qui peut pardonner mes péchés, il n'y a que Jésus qui me donne la vie éternelle, tous ces autres dieux m'imposent un esclavage lourd, et donc il se convertit, il se donne à Jésus-Christ. Alors ça, c'est pas évident pour lui. Il doit abandonner ses idoles, ses pratiques anciennes. Sa famille comprend pas sa démarche, donc sa famille va le rejeter. Mais l'Église l'encourage et courageusement, il se fait baptiser. Un dimanche matin, il donne son témoignage, il est baptisé. Hercule, je veux vivre ma vie chrétienne, je suis une nouvelle créature. Alors, le dimanche de son baptême, ça se passe très bien. Et l'après-midi, il se promène en ville et il voit un frère de l'Église qui est assis dans un temple païen, un temple d'idoles, qui est à table, qui fait la fête. Et il voit ce frère, il dit, ah, dis donc, je connais ce frère, et il m'encourage, il est dans l'équipe de musique, tout ça. Et ce frère dit, bah, viens manger avec nous, assis-toi à table avec nous, prends un verre avec nous. Et Hercule, là, il est... Attends, qu'est-ce que je fais là? Ça me rappelle toute ma vie passée. Quelque part, j'ai dit non à ça. Et le frère dit, mais ne t'inquiète pas, les idoles n'existent pas, on mange, c'est juste la viande. Mais vous voyez, c'est pas sage pour Hercule, c'est pas sage pour l'aider à grandir dans sa foi. Ce serait comme inviter quelqu'un qui vient de sortir d'un sévrage d'alcoolisme à une dégustation de vin. C'est pas utile, c'est pas édifiant à ce moment. Quelque part, on est... dégustation de vin n'est pas un tort en soi. Tout comme manger cette viande n'est pas un tort en soi, mais c'est le cadre, c'est la culture tout autour qui rappelle l'idolâtrie et qui serait une pierre d'achoppement pour Hercule. Donc vous voyez, ça nous aide, nous, à prendre nos décisions, faire nos choix. Ce principe d'amour nous aide dans toutes sortes de cas au sein de l'Église. Et quand je prends une décision, je ne pense pas qu'à moi-même, je pense aux autres. Est-ce que ça va édifier leur foi? Et même par amour, pour le bien des autres, je peux renoncer à certaines choses pour le bien des autres. Et ce que Paul appelle ses Corinthiens finalement, c'est, oui, peut-être c'est un droit, peut-être vous avez la connaissance, mais je vous invite à renoncer à ces choses pour le bien de vos frères et sœurs dans l'Église. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il a donné sa vie. Hein, Paul le rappelle d'ailleurs en verset 1, le frère pour lequel Christ est mort. Christ est mort pour ce frère. Il a donné sa vie pour ce frère. Vous pouvez ne pas manger de la viande pour lui, non? Vous voyez, Jésus, il a sacrifié sa liberté, il a sacrifié ses conforts, il a sacrifié ses droits pour nous aider, pour nous sauver, pour nous édifier. Et Paul lui-même va suivre cette même démarche auprès des Corinthiens. Et ça, c'est tout le sujet du chapitre 9. Il va montrer comment, moi, Paul, j'ai renoncé à des droits pour vous aider, vous, Corinthiens. Et maintenant, je vous invite à faire pareil envers vos frères et sœurs. D'où le verset final qui résume toute la démarche de Paul, chapitre 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Christ a cherché le bien des autres, il a mis de côté ses droits pour secourir, pour édifier notre foi. Vous faites de même. Alors maintenant, nous pouvons résumer ces deux principes, et ils sont résumés en chapitre 10, versets 31 et 32. Premier principe, est-ce que tout est permis? Oui, si c'est à la gloire de Dieu, et non idolâtre. Est-ce que tout est permis? Oui, si c'est pour le bien des autres, et non juste mon propre intérêt. Et c'est ainsi que Paul le dit en verset 31, 10-31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est tout pour la gloire de Dieu. Et deuxième principe, 32, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre. Si on respecte ces principes, oui, tout est permis. Et donc là, Paul va appliquer ces deux principes à ce cas très précis de la viande. Est-ce qu'on peut manger de la viande achetée au marché? Là, on n'est plus dans un temple païen, ça c'est non. Mais ce qui reste de cette viande, est-ce qu'on peut le faire? Et là, Paul donne des précisions en appliquant ces deux principes. Il dit, si vous l'achetez, oui, mangez tout ce qui se vend au marché. Verset 25. Mangez tout ce qui se vend au marché sans vous inquiéter de rien par motif de conscience. Là, si c'est chez vous, si c'est pour vous, votre repas, aucun souci, parce que voilà, vous pouvez le faire pour la gloire de Dieu, vous pouvez être reconnaissant pour cette viande, parce que c'est bon, et vous avez, si votre conscience le permet, c'est bien. Mais après, il précise, si vous êtes chez quelqu'un, si un non-croyant vous invite et vous sert de cette viande, là, est-ce que c'est à la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour le bien des autres? Oui, il n'y a pas de problème, mangez. Vous, d'ailleurs, vous voulez toucher votre ami, vous voulez discuter de l'évangile, donc voilà, mangez cette viande sans problème. Mais si quelqu'un dit « cette viande a été sacrifiée aux idoles », là ça change, parce que maintenant l'idolâtrie est là, visible, et il y a l'association qui est forte, et là il dit « ne mangez pas ». Verset 28, « si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice », là, n'en mangez pas. Et là, effectivement, il va falloir une démarche peut-être courageuse de dire « ça je ne peux pas, parce que ça trahit mon culte, mon adoration à Dieu, le seul Dieu ». Et finalement, si on devait résumer ces deux principes, c'est aime Dieu et aime ton prochain, vous voyez. Aime Dieu et aime ton prochain. Et ça, c'est la grande force et la grande beauté de la foi chrétienne. Tout se résume dans ces deux principes qui nous dirigent dans toutes sortes de choses dans la vie. J'aime Dieu, avant tout. Pas de concurrent en Dieu dans ma vie, pas d'idole. Et j'aime mon prochain. Et je suis prêt à sacrifier mes droits, mes privilèges pour le bien des autres. Et tout ça, on peut faire parce que Dieu nous a aimés en Christ, lui nous a donné Jésus-Christ par amour, et donc en réponse, nous pouvons vivre ainsi. Alors que ces principes nous aident à vivre notre vie d'Église, ici, dans notre culture autour de nous, avec ses défis, mais nous avons maintenant toute la sagesse et l'aide de Dieu pour le faire. Je vous invite à terminer dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ces cas qui font comme jurisprudence pour toutes sortes de cas que nous devons gérer dans notre vie quotidienne. Nous te prions de nous donner cette démarche courageuse de renoncer, de fuir toute idolâtrie, mais aussi cette démarche aimante de soutenir, de faire, de considérer le besoin de nos frères et sœurs, de faire ce qui est le mieux pour eux. Te remercions pour ce moment de culte que nous avons vécu ensemble, pour les témoignages, pour le repas que nous avons partagé qui nous rappelle que Jésus nous a aimés, il a donné sa vie pour nous, il nous a pardonné et maintenant nous pouvons vivre pour lui. Que tu sois loué encore ce matin au nom de Jésus. Amen.